Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être du lundi au vendredi de 15h à 16h. Comme tous les jours, dès 15h, il est à mes côtés dans ce studio, prêt à nous distribuer sans ordonnance ses meilleurs conseils. Vous avez vu, je trouve des petites punchlines différentes tous les jours comme
hier,
ça.
Hier c'était gratuit, aujourd'hui c'est sans ordonnance, demain ce sera sans médecin. Bonjour Mélanie, bonjour à toutes et à tous.
Merci beaucoup Jimmy. Allez, au sommaire aujourd'hui, notre grand dossier du jour sera consacré à la rééducation des femmes après une grossesse et un accouchement. La fameuse rééducation du périnée et de la sangle abdominale. Alors, c'est pas sexy dit comme ça, mais vous allez voir, c'est un sujet de la plus haute importance pour vous mesdames, parce qu'un périnée en forme, c'est aussi l'assurance de vieillir en toute sérénité. Pour nous éclairer sur tout cela, notre invitée, ce sera Sylvie Bilocoque, kinésithérapeute à Paris, en libéral et à la maternité Notre-Dame de Bon Secours à l'hôpital Saint-Joseph. Elle est également présidente du conseil scientifique de l'Association française de rééducation en pelvipérénéologie. Ensuite, dans notre chronique Les maux du quotidien, un problème masculin là pour le coup, nous ferons un zoom sur l'adénome de la prostate. Savez-vous comment ça se manifeste? Quels sont les symptômes et comment cela se traite? Le docteur Jimmy Mohamed nous dira tout. Enfin, vers 15h50, nous retrouverons comme tous les jours la chronique sexo de Catherine Blanc. Aujourd'hui, elle nous décryptera sans aucun jugement, bien sûr, ce que sont les couples libres.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, c'est le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc, on va démarrer par cette question de Quentin qui vit à Caen. On l'écoute.
Bonjour Jimmy, bonjour Mélanie. Je vous appelle aujourd'hui parce que ma mère a fait une abdominoplastie il y a quelques semaines. Et depuis, elle doit porter des bas de contention. Alors, je ne comprends pas exactement pourquoi, sachant qu'elle s'est fait opérer du ventre et non pas des jambes. Voilà, merci à vous, au revoir.
Alors, pour vous répondre, on a posé cette question précise au docteur Barbara Hersan. Elle est chirurgien plasticien au CHU Henri Mondor à Créteil.
Bien parce que dans ce type d'intervention, en fait, on va couper toute la circulation veineuse superficielle. Et du coup, il va y avoir une stagnation dans les veines des membres inférieurs, avec un risque de phlébite. Alors une phlébite, c'est un petit caillot qui va se créer dans les veines, avec un risque, si une phlébite se constitue, le caillot peut se mobiliser et entraîner ce qu'on appelle une embolie pulmonaire, c'est-à-dire que le petit caillot va migrer dans les poumons par la circulation veineuse. Du coup, effectivement, on recommande la prévention des phlébites en systématique après ce type d'intervention par des bas de contention, premièrement, et puis par essentiellement des piqûres d'anticoagulants pendant 15 jours. Donc tous les jours, une piqûre sous-cutanée avec un anticoagulant en préventif. Et d'ailleurs, depuis peu, les recommandations ont changé. Après ce type d'intervention, seules les piqûres d'anticoagulation suffisent. Et bien sûr, il est recommandé de ne pas prendre l'avion pendant un mois après ce type d'intervention.
C'était donc le docteur Barbara Hersan au micro de Benjamin Lévesque. Alors à présent, Jimmy, écoutez bien, on va prendre une autre question d'auditeur pour vous. C'est Françoise, une mamie inquiète. On l'écoute.
Bonjour, mon arrière-petite-fille est née avec un angiome assez important sur le côté droit de son corps. Donc je m'inquiète parce que cela devient en surépaisseur maintenant et j'aurais voulu savoir de quoi ça vient. Et puis me rassurer à la suite des traitements s'il y a ou choses comme ça. Je vous remercie et j'adore votre émission, votre bonne humeur, vos taquineries. Et continuez comme ça, c'est dommage, l'émission ne dure pas plus longtemps. Je vous embrasse tous les deux. Merci, au revoir.
Merci beaucoup Françoise, on vous salue bien sûr avec le docteur Jimmy Mohamed. Alors Jimmy, d'abord c'est quoi un angiome? Un angiome précisément, parce qu'il y en a plusieurs sortes je crois.
Alors effectivement, un angiome c'est une malformation vasculaire, une malformation des vaisseaux sanguins qui vont soit se dilater, soit s'accumuler. Et ceux qu'on connaît le plus, c'est ceux qu'on va avoir au niveau cutané, mais vous pouvez en avoir dans le tube digestif, vu que c'est une malformation vasculaire, et ça va donner une petite tache qu'on va observer notamment au moment de la naissance.
Est-ce que c'est fréquent chez les bébés de naître avec un angiome, où qu'il soit?
C'est extrêmement fréquent, c'est 10% des nourrissons qui vont en avoir un. Ça va apparaître au niveau, je vous ai dit, de la naissance. Ça touche plutôt les filles, 3 à 4 fois plus que les garçons. Et il y a certains facteurs de risque qu'on ne comprend pas très bien, comme un petit poids de naissance, certaines complications lors de la grossesse qui peuvent prédisposer à cet enjeu. Mais rassurez-vous, dans l'immense majorité des cas, dans 3/4 des cas, ça disparaît tout seul. Et ça va se situer le plus souvent au niveau de la tête, là où ce sera le plus visible.
Alors il y a plusieurs types d'angiomes. D'ailleurs, là, elle décrit une sorte avec une épaisseur, vous allez nous dire. Mais En gros, on les différencie comment, si on doit faire deux, trois grands types,
Alors, on va parler du plus fréquent, c'est celle qu'elle décrit, c'est l'hémangiome qui va avoir un aspect de fraise, en fait. C'est l'accumulation de vaisseaux sanguins qui vont faire un petit amas avec une fraise, tout simplement, en relief, qui va apparaître et qui va grossir durant les 3 à 6 premiers mois de la vie, mais qui vont régresser tranquillement en 4 à 6 ans. Ça veut donc dire qu'il faut être patient et se faire suivre.
D'accord. Alors justement, là, elle disait, qu'est-ce qu'on doit faire ? Est-ce qu'on peut traiter ? On peut traiter ce type d'angiome dont vous venez de parler ?
On va surtout suivre des localisations qui vont nous inquiéter au niveau de la paupière.
Là, elle dit le côté, c'est pas le visage.
C'est peu grave, voilà, exactement. C'est sur le corps. Ce qui va nous inquiéter, c'est plutôt au niveau du visage, et en particulier au niveau de la paupière ou de l'œil, puisqu'on a la crainte d'une atteinte oculaire, au niveau du menton, puisque lorsque ça va se développer, on a peur que ça touche les voies respiratoires. Et puis au niveau du front, pardon, ou du cuir chevelu, puisque là, on se dit, il y aura peut-être une atteinte cérébrale. Sinon, ça régresse tout seul. Et parfois, on propose du laser pour permettre à l'angiome de disparaître ou d'atténuer les cicatrices.
Merci beaucoup, Jimmy. Alors, si vous aussi, comme Françoise qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions santé, bien-être au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout, pas d'hésitation.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Très heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors c'est le moment d'accueillir en studio avec nous notre invitée du jour, c'est vous Sylvie Bilecoq, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes kinésithérapeute libérale et aussi à la maternité Notre-Dame de Bon Secours à l'hôpital Saint-Joseph. Vous êtes également présidente du conseil scientifique de l'Association française de rééducation en pelvipérénéologie, je l'ai bien dit je crois.
C'est ça.
Voilà. Alors justement, avant de passer à la pratique, à la rééducation du périnée qui est notre sujet du jour, on va commencer par un peu de physiologie finalement. Tout le monde a entendu parler du périnée, surtout les femmes, celles qui ont précisément porté un enfant. Mais finalement, si on pose la question aux femmes, on se rend compte que peu d'entre elles sauraient définir réellement ce que c'est quoi le périnée.
Alors, le périnée, c'est l'ensemble de la musculature qui va venir fermer le bassin. En fait, ce bassin, c'est comme un tube osseux. Et en fait, ce plancher pelvien, on parle de plancher, mais ce serait plus juste de dire de diaphragme, va venir obturer le bassin dans sa partie, on pourrait dire entre guillemets, le fond du bassin.
D'accord.
Le périnée, on va le voir, il est mis à rude épreuve pendant la grossesse, mais est-ce qu'il y a d'autres événements de la vie qui vont faire qu'on va fragiliser ce périnée en dehors du cadre de la grossesse ?
Alors, tous les facteurs de risque périnéaux, en fait, vont être la première, c'est le vieillissement. D'accord.
Donc, et on est d'accord, Jimmy, ça vous concerne aussi. Hein, c'est pas qu'une histoire de femme, ça. Hein, pour
Oui. Ouais. Donc surtout que votre sujet suivant, c'est parle de prostate. Donc effectivement, ce muscle, on en a tous un. Les enfants, les hommes, les femmes. Et donc on pourra faire de la rééducation périnéale. Et c'est le rôle des kinésithérapeutes de traiter les dysfonctions, les troubles pelvipérinéaux de l'homme, de la femme et de l'enfant.
Pour obésité, oui, voilà, c'est la question de Jimmy, c'était les causes en dehors de la grossesse, c'est quoi pour...
Alors,
les autres causes, donc le vieillissement, on a ensuite l'obésité, donc les femmes qui sont en surpoids sont plus à risque de développer des troubles pelvipérinéaux, mais il ne faut pas oublier, à l'inverse, de l'autre côté, on en parle peut-être pas suffisamment, mais les troubles qui sont liés à l'anorexie, donc ce sont des jeunes filles, la plupart du temps, qui vont être sujettes au prolapsus, mais plutôt rectal. Le
prolapsus, donc, c'est descente d'organes.
C'est rectale et c'est la conséquence, c'est l'incontinence anale.
Et on n'avait pas beaucoup de connaissances de l'anorexie. Alors, on va revenir, Sylvie, à la femme qui vient d'avoir un bébé, mais avant l'accouchement, durant la grossesse, déjà, en elle-même, ce périnée, il est mis à rude épreuve. Expliquez-nous.
Oui, alors, la grossesse reste, malgré tout, un facteur de risque mineur. Donc, la prise de poids, c'est un facteur. Il y a aussi des modifications et des modifications. Donc là, pour ce qui est de la continence, hein, parce qu'on ne l'a pas encore dit, mais ce plancher pelvien, il est responsable de la continence urinaire anale. Il est responsable aussi du soutien viscéral. Les modifications hormonales liées à la grossesse vont favoriser les troubles de la continence. Et en fait, la première raison, c'est l'augmentation du taux de progestérone pendant la grossesse, qui est absolument nécessaire pour pas que l'utérus se contracte. Donc ça va relaxer ce muscle lisse, mais ça va aussi relaxer l'ensemble des d'autres muscles lisses comme les sphincters et la vessie.
Alors on comprend si jamais une femme, et ça peut arriver, prend beaucoup de poids pendant sa grossesse, 20 kilos, on comprend qu'il y a plus de contraintes qui vont s'appliquer sur le périnée. Mais à l'inverse, une femme qui aurait pris peu de poids, 7 ou 8 kilos, elle doit elle aussi malgré tout faire sa rééducation. Elle n'est pas exempte justement de séquelles sur son périnée.
La chose qui est importante, c'est que la rééducation périnéale ne doit pas être systématique, que la prise de poids, en fait, pendant la grossesse, si elle est un facteur de risque, n'est pas, entre guillemets, une indication à la rééducation périnéale. La seule vraie indication, ce sont les symptômes. Mmh. D'accord ?
Et l'accouchement en lui-même, là, pour le coup, il peut traumatiser ce périnée. De quelle façon et quelle part de femmes, finalement, qui vont accoucher par voie basse, essentiellement, on parlera peut-être de la césarienne après, mais vont avoir des séquelles, des problèmes au niveau du périnée après ?
Il y a plusieurs questions. Donc, le mécanisme de l'accouchement va générer un étirement important au niveau du muscle périnéal et puis aussi une compression. Et ce sont ces deux facteurs, étirement et compression, qui vont générer des lésions musculaires qui peuvent engendrer des troubles et des symptômes de la continence et du soutien des organes pelviens.
Pour autant, on en parlait un petit peu avant, une femme qui a eu une césarienne doit malgré tout aller faire un bilan, puisque fut un temps, certains gynécologues disaient
vous
accouchement
êtes dispensé,
voie basse, rééducation, césarienne, c'est bon, pas de rééducation, c'est plutôt faux.
Alors, non, c'est pas tout à fait faux. Donc, elles vont avoir besoin d'un bilan, mais l'accouchement par voie basse, le phénomène de lésion musculaire n'ayant pas eu lieu, il n'y a pas eu d'étirement, il n'y a pas eu de compression. Alors évidemment, il y a la différence entre la césarienne d'urgence et puis la césarienne programmée. Mais ce sont des femmes qui sont bien sûr à moindre risque pour les troubles pelvipérinéaux. Et si elles n'ont pas de troubles et si l'examen clinique est normal, il n'y aura pas de rééducation périnéale.
Mais ce que disait Jimmy, c'est le bilan, malgré tout, est important. Même si on a une césarienne. Sylvie Bilocoque, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez avec nous.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé, Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors aujourd'hui, notre invitée en studio avec nous, c'est Sylvie Bilocoque. Vous êtes kinésithérapeute, libérale et également à la maternité Notre-Dame de Bon Secours de l'hôpital Saint-Joseph. Vous êtes également présidente du conseil scientifique de l'Association française de rééducation en pelvipérinéologie. Alors Sylvie, on va passer au bilan au niveau de ce périnée. On a dit tout à l'heure, toutes les femmes, qu'elles aient accouché par voie basse ou par césarienne, doivent au moins faire ce bilan. Combien de temps après l'accouchement, finalement, il est conseillé dans l'idéal de le faire, ce bilan ?
Aux alentours de la 6e à la 8e semaine.
Il faut attendre que les choses se remettent un peu en ordre.
Il y a une récupération spontanée. Mmh. Cette récupération spontanée, elle va jusqu'à 3 mois. Il faut savoir que 85% des incontinences urinaires du postpartum, elles se résorbent spontanément dans les 3 premiers mois. Donc, il faut attendre un petit peu la récupération spontanée.
Alors vous dites qu'il faut attendre, mais malgré tout, il ne faut pas attendre peut-être d'avoir des symptômes, puisque vous avez parlé des problèmes essentiellement d'incontinence, mais sur le long terme, ça a peut-être tendance à s'aggraver, donc il faut faire cette rééducation avant justement d'avoir justement cette incontinence.
Alors, si on reste dans le cadre de la grossesse et de l'accouchement, donc les symptômes, ils peuvent être majeurs après l'accouchement, et c'est au contraire là qu'il va falloir anticiper ce bilan quand on a des symptômes qui sont extrêmement importants.
Donc, les symptômes, pour savoir.
L'incontinence urinaire et puis l'incontinence anale, dont on parle hélas trop peu. Donc, ce sont des symptômes du postpartum immédiat et ils sont à prendre en charge le plus vite possible. On sait que ça a une répercussion sur le moral des femmes. C'est un facteur de dépression du postpartum. Ce sont des femmes qui doivent être encadrées. Mais sinon, si les symptômes ne sont pas majeurs, eh bien, on va se mettre à la 6e et à la 8e semaine.
Surtout que parfois, des femmes vont avoir une grossesse qui se passe bien et puis une deuxième, pas de rééducation. Et puis une troisième grossesse. Et puis là, les symptômes peuvent aussi s'aggraver puisqu'on a négligé les grossesses préalables. Donc, je pense que c'est important de dire, allez faire votre bilan. Au pire, vous n'aurez pas besoin de séance, mais allez vous faire évaluer, même en l'absence de symptômes. Puisqu'on comprend, vous avez une incontinence urinaire, une incontinence anale. C'est évident qu'elles vont consulter, qu'elles doivent absolument consulter. Mais même en l'absence de symptômes, faites votre bilan.
Absolument.
Et au pire, vous rentrerez chez vous.
Et c'est très important à dire parce qu'en fait, si on parle de ces fameuses descentes d'organes, en fait, elles sont quand même relativement fréquentes dans le postpartum. Et il faut savoir que quand elles sont modérées, c'est-à-dire que quand la bascule de cet organe reste dans le tube vaginal, donc on ne le perçoit pas, 75% sont complètement asymptomatiques. Donc on peut avoir des troubles anatomiques sans pour autant avoir de symptômes. Et c'est là que l'importance du bilan intervient, en fait. C'est pour dépister aussi des anomalies anatomiques qui ne donnent pas lieu à des symptômes.
Quels sont les professionnels qui le réalisent ce bilan ? Alors les kinés, on l'a compris, mais il y en a d'autres, je crois.
Les sages-femmes.
Elles sont capables aussi de faire ce bilan, donc au choix entre les deux. Est-ce que le métier de la femme a une importance? Vous m'avez dit en préparant l'émission que oui. Sur les risques finalement de complications, lesquels des métiers sont à risque?
Alors par exemple, il est montré que chez les coachs sportifs, la prévalence de l'incontinence urinaire est plus importante. En fait, ce sont tous les métiers qui vont être à forte contrainte pelvienne, c'est-à-dire où les impacts, où ce plancher pelvien va devoir en permanence contrer des augmentations de pression de façon répétée. Donc tout ce qui est soulever des charges lourdes.
Donc on parlait des métiers, les coachs sportifs, mais est-ce qu'à l'inverse, des femmes qui vont pratiquer beaucoup de courses à pied, on sait que c'est un peu à la mode, elles aussi vont fragiliser leur périnée et vont être un peu plus à risque, en tout cas vont devoir être un peu plus surveillées après l'accouchement?
Alors, il faut rester modéré l'intensité de la pratique sportive. Donc ça concerne vraiment la sportive de haut niveau. Ouais. Et ce qu'il faut vraiment dire,
pas
la sportive du dimanche.
Vous êtes épargnée, Mélanie.
Ça va, je suis sauvée.
Vous êtes vous de la sportive du lundi de 8h à
8h12. Hein, je voulais protéger mon périnée.
Mais attention, parce que à l'inverse, on a bien montré que la sédentarité était un gros facteur de risque d'incontinence. Donc en fait, entre la sportive de haut niveau faire. Voilà. Donc le message, c'est surtout protéger votre continence,
bouger. D'accord. Alors justement, ce bilan, très concrètement, vous faites quoi? J'imagine il se fait en deux temps. Il y a un interrogatoire et l'examen clinique. Très concrètement, vous allez regarder quoi? Vous allez rechercher quoi chez la femme qui vient vous voir pour ça?
On va l'interroger sur ses symptômes. Donc on a des scores de symptômes pour nous aider, qui sont des scores validés, qui nous permettent de déterminer la sévérité de ces troubles. Et puis on a l'examen clinique. Et donc dans l'examen clinique, on va regarder la tonicité de ce muscle périnéal, sa force, son endurance. Et puis,
oui, parce que c'est pas tout d'arriver à contracter, faut arriver à le faire un petit peu sur quelques temps, quoi, sur une durée un peu plus longue que juste deux secondes, quoi, j'imagine. Enfin, c'est ça. Hein. Mais c'est très concret. Vous allez mettre la main et puis vous allez doigts. Alors, en tout cas, c'est ça. Hein.
Oui, c'est un toucher vaginal. Un toucher vaginal qui, c'est une évaluation qui se fait à un doigt et puis après pour la force, cette capacité à fermer ce tube vaginal.
Ça ne fait pas mal, rassurons les femmes qui nous écoutent.
Et c'est surtout que ce bilan, il est fait aussi pour dépister toutes les douleurs, qui sont toutes les troubles de la cicatrisation. Donc au contraire, notre objectif est toujours de lutter contre la douleur.
Et à partir de ce bilan, vous arrivez à dire combien de séances il va falloir? Est-ce que vous pouvez dire à la femme, écoutez, vous, ça va être une, deux, ou là, ça va être peut-être un peu plus long et un peu plus difficile?
Alors, on ne se prononce pas sur le nombre de séances. Ce qui est important, c'est qu'au bout de 10 séances, il y ait une amélioration sur les symptômes et une amélioration en termes de tonicité musculaire et de contrôle de cette contraction volontaire. Il ne suffit pas de faire « bodybuilding » des muscles. Il faut aussi avoir un contrôle volontaire et la mettre en œuvre quand c'est nécessaire.
C'est pas tout qui soit en béton, ce périnée,
il faut savoir s'en servir.
Voilà. C'est ça. Très bien, c'est Bibi Lecoq, on va faire une courte pause. On continue bien sûr cet entretien dans quelques minutes.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Vous êtes sur Europe 1 dans son rendez-vous. Elle nous accompagne cet après-midi. C'est vous, Sylvie Bilocoque. Vous êtes kinésithérapeute. Vous êtes également présidente du conseil scientifique de l'Association française de rééducation en pelvipérinéologie. Alors, on va passer à la pratique à présent, à la rééducation du périnée dans la vraie vie pour les femmes. D'abord, est-ce qu'il y a plusieurs méthodes de rééducation? Alors, je crois que vous n'aimez pas trop le mot méthode. Vous me l'avez déjà dit en préparant l'émission. Vous parlez plutôt de technique.
Donc il n'y a pas de méthode, ça c'est vraiment très clair. On a un ensemble de techniques. Ces techniques, on va les agencer en fonction du besoin spécifique d'une femme en particulier. C'est vraiment une rééducation qui est designée. On ne colle pas la même méthode à tout le monde, ça n'est pas possible. Et donc on va répondre aux besoins. Donc pour ce faire, on a les techniques manuelles qui sont vraiment la base de la rééducation.
Ça veut dire quoi, technique manuelle ?
Eh bien, on va apprendre, parce qu'en fait, cette rééducation ne peut se faire que si la femme maîtrise cette contraction volontaire. Donc, il va y avoir des explications d'anatomie, de fonction, et puis on va l'aider à trouver cette contraction périnéale. Et puis, une fois que cette contraction...
à la maîtriser et la provoquer.
On va pouvoir renforcer ce muscle.
Donc, vous avez dit technique manuelle, ça veut dire qu'il y a des techniques aussi mécaniques avec des instruments, une sonde, c'est ça qu'on peut utiliser?
Oui, alors il y a cette fameuse... cette technique de biofeedback qui est une sonde que l'on place au niveau du vagin et qui va enregistrer l'activité des muscles périnéaux pendant la contraction. Donc, il faut savoir que la contraction
La sonde,
musculaire...
c'est une sorte de thermomètre ou elle fait quelque chose, cette sonde ?
Ah non, non, non. La sonde, là, elle est inerte, on s'en sert comme capteur.
D'accord.
Donc, il y a deux petites électrodes et ces électrodes vont capter l'activité électrique, puisque la contraction musculaire, c'est une activité électrique, et puis va la traiter et on va pouvoir obtenir un tracé qui est visible sur un écran. Et donc
voilà,
la patiente
c'est ça le côté
suivre,
feedback,
ce
c'est que la femme, elle voit sur l'écran finalement ce qui se passe dans son vagin, hein, c'est ça?
Absolument, donc c'est un retour en temps réel de l'activité musculaire, ce qui fait qu'on va pouvoir, s'il y a un relâchement par exemple, on va pouvoir en prendre conscience visuellement et puis agir de façon à obtenir le mouvement souhaité.
Est-ce qu'il y a une technique qui est plus efficace ? Est-ce qu'en manuel, c'est mieux qu'avec la sonde ? Ou est-ce que c'est pareil ? Est-ce que c'est au cas par cas ? Est-ce qu'il y a certaines femmes qui vous disent « Non, 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 moi, je ne veux pas de sonde, je veux du manuel. » Est-ce qu'il y a des préférences
Alors,
que vous avez pu observer ?
Le rôle du rééducateur est de présenter l'ensemble des techniques à la femme et de se mettre d'accord avec la patiente sur les techniques choisies. Donc, c'est au rééducateur d'expliquer l'intérêt
qui, lui, doit maîtriser toutes les techniques, le rééducateur,
oui,
on est d'accord. Hein.
Absolument. Donc, chaque technique correspond à un besoin particulier. Et bien sûr qu'on demande au rééducateur d'avoir à sa disposition l'ensemble des techniques et de toutes les maîtriser.
Est-ce que ça fait mal pour les femmes ? Alors, on imagine la sonde dont on vient de parler, ça peut effrayer un peu comme ça, d'imaginer de se mettre une sonde dans le vagin pour travailler avec... Vous avez parlé d'électricité,
non,
de
mais
capteurs,
on peut...
ça fait pas mal.
Non, non, c'est exactement le même principe. Et on peut faire un parallèle avec le tampon vaginal que l'on utilise au moment de ses règles. Donc, comment... Les sondes sont parfaitement adaptées à l'anatomie, il n'y a rien de douloureux.
Alors, j'ai la chance d'avoir une femme qui est sage-femme et qui du coup pratique de la rééducation aussi.
Vous êtes un spécialiste, du coup,
oui,
vous
du
en
coup,
parle tous les soirs au dîner, vous
exactement.
Parlez de rééducation
du périnée. Exactement, c'est très sympa. Vous devriez venir, Mélanie, vous verrez
non,
que c'est très sympa.
Non, mais ça va, je viendrai un autre jour peut-être.
Et elle me dit un truc qui est assez intéressant, lorsqu'elle voit des femmes pour la rééducation, elle leur dit, écoutez, moi je ne suis pas là pour faire que la rééducation, je vous donne les clés pour ensuite vous entraîner à la maison. C'est un peu comme quand on a des abdominaux, on en a un jour, mais on continue de les travailler. Le tout, c'est pas d'espérer en 10 séances tout régler, c'est de faire le point et puis vous, à la maison, de vous entraîner. Donc ça veut dire qu'il y a des exercices à la maison qu'on peut faire ?
Alors ça, c'est absolument c'est la clé du succès.
Ah, on apprend dans le succès, Jimmy, attention.
À l'image de son mari, je
ouais,
crois.
C'est ça, oui, bien sûr.
On apprend, enfin, ce que j'explique aux patients, on apprend au cabinet, on se rééduque à la maison. C'est-à-dire qu'on sait très bien que tous les sportifs, si on veut faire un entraînement musculaire, c'est sûrement pas une fois par semaine ou deux fois par semaine, c'est un minimum de 3 fois par semaine. Donc ça veut dire que forcément, il y a un relais à la maison. Donc on propose un ensemble d'exercices pour faire...
D'auto-entraînement.
D'auto-entraînement. Et ce programme, il est modulé en fonction des progrès de la patiente. Il varie, il est de plus en plus complexe.
Alors quel exercice vous allez me donner, par exemple si genre... Enfin, pas moi en particulier, mais... Non, mais quel type d'exercice vous donnez aux femmes ? Juste pour avoir une idée, un exemple.
Alors,
qu'est-ce
en fait,
qu'elles doivent faire ?
On leur demande et des contractions brèves et des contractions tenues. Et puis, on leur demande ces contractions dans des situations de la vie.
C'est-à-dire ?
Eh bien, en marchant. En fait, il faut absolument qu'on ait dans de la réadaptation fonctionnelle. Il faut que faut pouvoir bouger.
Oui, donc finalement, elles font cette réduction et personne ne se rend compte autour qu'elles sont en train de la faire. Hein, c'est ça, on est d'accord, on peut le faire en faisant autre chose. Quoi.
Ah, mais absolument.
Là, je pourrais être en train de faire en loose day, comme ça, comme on dit, ma rééducation du périnée.
C'est un peu compliqué parce que vous êtes quand même un petit peu concentré et puis vous êtes un petit peu en train de parler. Mais on peut imaginer très bien que dans les transports en commun, c'est tous ces moments de vie où on est en pause et on peut utiliser ces moments pour faire des contractions.
Vous parlez de pause. Il y a une époque, on proposait ça, je crois que ce n'est pas terrible, mais le stop pipi.
Oui, je me souviens de ça, moi, on en avait parlé. En tout
on
cas.
En parlait aux femmes. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est que le stop pipi ? Parce que tout le monde, même si on comprend un peu où est-ce qu'on va en venir, mais est-ce qu'il faudrait le faire ? Est-ce que c'est un bon exercice ?
Alors, c'est une interdiction. Donc déjà, on pose les choses. Le stop pipi, c'est l'exercice qui consiste à interrompre le jet pendant qu'on est en train d'uriner, et on a bien montré que cela favorisait le résidu post-mictionnel. Donc quand on urine et qu'on s'amuse, qu'on pensant se faire du bien, contracter le plancher pelvien, interrompre la miction, c'est le fait d'uriner, reprendre, s'arrêter, reprendre, en fait, on perturbe la vidange vésicale et ça n'est pas du tout une bonne idée.
Ah oui, donc il ne faut pas du tout le faire. Bon, ça tombe bien, j'ai jamais voulu le faire.
Il faut faire semblant. On peut le tester pour voir si ça marche et ensuite on répète cet exercice.
Hors période de où on urine, d'accord. Ces femmes, elles font ça, mais la durée des exercices, on disait justement que vous conseillez l'auto-entraînement, elles vont le faire dans les... Elles vous ont vu pendant quelques séances, imaginons, elles vont continuer cet auto-entraînement. Mais est-ce qu'il faut le continuer toute la vie? Combien de temps? Est-ce que plus longtemps on va le faire, mieux on va vieillir ou pas? Enfin, je ne sais pas.
Ça reste une bonne idée de s'entraîner régulièrement. Temps, ouais. Voilà. En fait, ce qu'il faut, c'est maintenir les acquis.
Est-ce qu'il y a de la prévention, finalement, même les femmes qui n'ont pas eu besoin de rééducation, est-ce que ça fait du bien de faire ce genre d'exercice ou pas?
On pourrait dire que c'est une bonne hygiène de vie que de régulièrement exercer ces contractions volontaires pour ne pas perdre le fil, en fait.
Dernier point qui est peut-être le plus important, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour faire sa rééducation. Et j'ai ma femme qui, justement, a parfois des femmes de 50...
C'est une émission hommage un peu aujourd'hui, Jimmy,
exactement,
à votre
c'est
femme.
Ça, exactement. Mais elle me disait, j'ai des femmes de 50, 60 ans qui viennent pour des problèmes urinaires pour lesquelles elle arrive à les améliorer. Elles vont mieux avec des séances. Donc, il faut se dire que même s'il y a 40, 50 ans, même si les grossesses restent très loin, il faut aller se faire tester et puis on pourra peut-être vous aider.
Et ça, c'est vraiment un point extrêmement important. C'est qu'il n'y a pas d'âge pour faire sa rééducation et on a bien monté. Donc, il y a des études qui le montrent. Les femmes âgées qui font de la rééducation peuvent en attendre le même bénéfice que des femmes plus jeunes. Il n'y a pas de différence en termes d'amélioration. Donc surtout, il ne faut pas rester avec des troubles de la continence urinaire ou anale. Le premier traitement, ça reste la rééducation.
Oui, Mélanie, c'est jamais trop tard.
Et c'est remboursé ou pas d'ailleurs, c'est très
important. Oui, c'est remboursé.
Très bien. Merci beaucoup Sylvie Bulocoque d'avoir accepté de répondre à nos questions. Nous vous souhaitons une belle après-midi. Merci encore d'avoir été avec nous.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. Nous sommes très heureux de vous accompagner cet après-midi. À présent, on va passer à notre séquence Les mots du quotidien. Aujourd'hui, focus sur l'adénome de la prostate. Savez-vous d'abord ce que c'est précisément? Quels sont les symptômes qui doivent y faire penser? Et bien sûr, quel est le traitement proposé aux hommes qui en souffrent? On parle des hommes aussi un petit peu, évidemment. On pense à tout le monde ici. Alors Benjamin Lévesque vous a interrogé sur ce sujet. On écoute tout de suite ce que ça donne.
L'adénome de la prostate, c'est une sorte de cancer peut-être?
C'est le cancer de la prostate.
Ça touche la prostate, d'où son nom.
Le nom me fait peur.
Le fait qu'il y ait une grosseur au niveau de la prostate.
Du coup, ça touche les hommes. Plus, je pense, vers la cinquantaine, dans ces tranches d'âge-là.
La prostate est beaucoup plus grosse qu'en temps normal. Et c'est en fait comme ça qu'on repère qu'il y a une maladie.
Ouais, peut-être pas un ballon de foot, un peu plus petit quand même. J'ai une balle de tennis, quoi.
Généralement, elle est pas trop grosse. Mais quand elle grossit, tout ça, et ben là, il faut faire des examens parce que c'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a un début de cancer.
Ça peut être une opération type ablation et quand c'est moins grave, peut-être que ça suffit avec un traitement cancer, quoi, enfin classique.
Alors Jimmy, on va reprendre du début. Pourquoi, pour commencer, l'adénome de la prostate, c'est quoi? Alors est-ce que si je dis une grosse prostate, j'ai raison?
Ça marche, c'est pas très docteur, mais non. C'est acceptable, grosse prostate.
Merci, vous acceptez, vous validez.
Et on a entendu dans le micro-trottoir, les gens parlaient de cancer. Et c'est vrai qu'on n'utilise pas trop ce terme d'adénome, puisque justement, un adénome, c'est une tumeur bénigne. Mais quand on dit tumeur, on pense à cancer, à maladie grave. Et du coup, on utilise plutôt le mot hypertrophie bénigne de la prostate. Ça veut dire
hyper
une prostate,
gros, hein, on a compris,
une grosse prostate. Trophie, ouais. On sait que la prostate, en règle générale, fait la taille d'une noix. C'est tout petit. Mais avec l'âge, cette noix, elle va grossir et elle va prendre la forme...
D'une figue d'une... Non, je ne sais pas. Je cherche, vous êtes dans l'alimentation, alors j'essaie
alors
de vous
plutôt
aider.
Plutôt d'une petite pêche ou d'un abricot, c'est plus mignon.
D'accord,
je trouve,
un petit
cas,
abricot. Okay.
Et c'est révélateur du fait que la prostate va grossir et ça va entraîner des petits problèmes.
Et donc, vous l'avez dit un petit peu, c'est en vieillissant, donc ça veut dire que c'est un problème qui touche plutôt les hommes d'âge mûr.
Oui, pour l'instant, je suis encore épargné, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est 60% des hommes de 60 ans qui vont avoir cette hypertrophie.
Ouais,
et à 85 ans, c'est 90% d'entre eux qui vont en souffrir.
Quels sont les symptômes qui doivent faire penser qu'on a peut-être un adénome de la prostate?
Alors, une grosse prostate, c'est une prostate qui va vous gêner essentiellement dans la vie urinaire. Vous allez avoir des problèmes d'obstruction et de rétention. Vous allez faire pipi par
beaucoup d'histoires de pipi aujourd'hui,
beaucoup
en fait.
Beaucoup d'histoires de pipi, exactement. Un jet qui va être plutôt faible, le fait de se réveiller la nuit, d'avoir du mal à vider sa vessie, et puis ça va entraîner des complications. Une grosse prostate, c'est une prostate qui va s'infecter, qui va donner ce qu'on appelle des prostatites, et qui peut, sur le long terme, influencer sur les voies urinaires et donc sur les reins et entraîner, lorsque ce n'est pas traité, une insuffisance rénale.
Vous avez dit, c'est pas un cancer, mais par contre, hein, ça se surveille. Alors, on peut avoir ça sans avoir de symptômes. Par contre, au bout d'un moment, vous l'avez précisé, il peut y avoir des signes, notamment urinaires. Donc, pas de panique. Et puis, il y a des traitements, je crois, déjà, dans un premier temps, médicamenteux.
Ça surveille à l'aide du toucher rectal. Allez voir votre médecin traitant. À partir de 50-55 ans, il va falloir y passer. Les traitements, il y en a plusieurs. Dans un premier temps, on va évaluer la gravité, ou en tout cas la sévérité de la maladie. Ensuite, on va vous proposer certains traitements, parfois de la phytothérapie simplement, aucun effet secondaire des plantes. On peut avoir recours à ce qu'on appelle des alpha-bloquants, des médicaments qui vont relâcher le sphincter pour lutter contre cette vessie qui va avoir du mal à se vider. Parfois, on donne d'autres traitements qui vont réduire la taille de la prostate ou parfois des traitements chirurgicaux lorsque ces traitements n'ont pas marché.
J'allais vous dire, donc il y a des traitements même mini-invasifs. On n'est pas obligé tout de suite d'opérer, d'enlever tout ça.
Oui, on vous permettra de garder votre prostate pendant quelques temps. On va pouvoir vous proposer certaines techniques. Ça va dépendre du chirurgien, de votre prostate et de ce que vous décidez. Ça peut être du laser, des techniques micro-invasives. On va réséquer votre prostate. On va enlever des petits copeaux pour qu'elle réduise de volume. Et parfois, on va ce qu'on appelle l'énucléer, c'est-à-dire retirer une partie de la loge prostatique.
Ça fait peur, pour qu'elle
soit
un peu
vidée.
Mais...
Ça fait peur, mais ça fait du bien une fois qu'on l'a retirée. Vous verrez, enfin non, vous verrez
non,
pas.
Je verrai pas, non.
On fait pipi beaucoup mieux.
Merci beaucoup, Jimmy, pour toutes ces précisions. C'était vraiment très précis, très clair. Hein. C'est très bien.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
La chronique sexo de Catherine Blanc, ce sera juste après un peu de musique. On écoute le groupe Eurythmics et leur morceau « There must be an angel ».
Oh,
C'était le groupe Eurythmics sur Europe 1 avec leur titre There Must Be an Angel.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15 heures avec le docteur Jimmy Mohamed et Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris qui nous rejoint en studio comme tous les jours. Alors Catherine, aujourd'hui, on va découvrir la question d'Emilien que le docteur Jimmy Mohamed va nous lire. Après tout, il n'y a pas que moi qui sais lire. Hein.
Avec grand plaisir. Ma collègue vit avec sa copine depuis près de 10 ans et elle m'a révélé l'autre jour être un couple ouvert. Elles ont le droit d'aller voir ailleurs, mais interdiction d'en parler. Je trouve cela étrange. Sont-elles réellement amoureuses l'une de l'autre ? Bon, ça, je sais pas trop.
Je connais votre avis déjà, Jimmy. Je sais pas pourquoi.
Mais qu'est-ce que ça veut dire un couple ouvert ? Parce que finalement, elles ont l'hypocrisie de fermer les yeux, de ne rien dire. Donc, qu'est-ce que c'est ?
Vous avez déjà donné un peu votre avis là, d'une certaine façon.
Alors, je pense que là, en l'occurrence, c'est que les curiosités de chacune appartiennent à chacune. Et donc pas nécessairement au couple, donc que chacune puisse explorer ce qui est important pour elle, tout en veillant à la sauvegarde de la qualité du lien.
En exposant que c'est Catherine qui répond, parce qu'elle parle d'ouverture, de découverte, voilà.
de curiosité.
Voilà, et surtout de bienveillance à l'égard de sa partenaire, parce que la bienveillance, c'est pas nécessairement toujours appartenir à l'autre, c'est veiller à ne pas lui faire de mal, si d'aventure quelque chose de soi n'est pas en adéquation tout le jour avec le lien de couple et d'exclusivité.
Catherine, ça a l'air de choquer Emilien qui nous écrit cette question.
Et pas qu'Emilien,
Jimmy aussi. Et Jimmy, et cela dit, au-delà de Jimmy, je plaisantais tout à l'heure, mais ça peut choquer pas mal de couples parce que c'est pas la norme, on est d'accord. Les couples ouverts ou les couples libres, c'est pas ce qu'on voit le plus à chaque coin de rue quand même. Hein.
Oui, enfin d'ailleurs, qu'on le voit le plus ou le moins, en tout cas on peut comprendre qu'un couple se constitue sur une autre base, à savoir...
C'est la fidélité normalement,
Mets en paix, je te suis fidèle. D'ailleurs, je te suis pas fidèle par traduction de mon amour, mais souvent parce que je veux m'assurer que tu le seras en retour et que j'ai besoin moi pour ma sécurité que tu le sois. Et à ce titre, je suis prêt à renoncer à mes curiosités, comme je disais, et mes ouvertures, pour justement t'être fidèle en retour.
Mais est-ce que c'est vraiment une preuve d'amour que d'accepter que l'autre aille voir ailleurs ? Est-ce que c'est peut-être ça qui fait que ça marche sur la longueur, 10 ans qu'elles sont ensemble ? Ça me semble un peu.
Alors, j'ai cru un instant, j'ai
encore dans la question avec vos petits yeux plissés. Voilà. Comme ça.
J'ai rêvé un instant que vous alliez me dire est-ce que c'est une preuve d'amour d'être fidèle ?
Non.
Mais non, c'était est-ce que c'est une preuve d'amour d'aller. Enfin, je crois que l'amour, il y a derrière le terme amour beaucoup de choses. Des choses très jolies, comme toute la bienveillance que l'on peut s'accorder l'un à l'autre. Et donc, ça, c'est une chose. Et on peut se dire qu'elles peuvent entendre que l'amour, c'est la bienveillance dans le sens du respect, de la liberté de l'autre. Pourquoi pas ? Maintenant, est-ce que être ensemble, c'est s'interdire des choses si elles sont importantes pour soi ? Et posons-nous la question, sont-elles vraiment importantes ? Faut-il avoir goûté à tout pour pouvoir être en paix et être heureux ? Et est-ce que finalement, se poser en un lieu, dans une relation, et tirer parti de cette relation, nourrir cette relation, est-ce que ça n'est pas aussi un merveilleux projet, sans que ce soit un truc triste, un truc moribond, ou un truc tellement classique que d'autres couples pourraient penser qu'il faille absolument ouvrir tout à tout. Alors, je crois qu'il y a chacun à sa réponse, en fait.
On parle d'un couple libre, un couple ouvert, mais dans lequel, néanmoins, il y a des règles. Elles ont interdiction de parler à l'autre de leur relation extra-conjugale qu'elles auraient pu avoir. C'est pas ça aussi qui fait que ça fonctionne, peut-être, être libre, être ouvert, mais avec des règles bien précises. Vous aimez les contrats, pourtant, Jimmy, d'habitude.
Oui, les règles bien établies.
Voilà. Je crois que c'est parce qu'elle, c'est la fameuse bienveillance, c'est-à-dire que je ne t'expose pas à mes états d'âme, à mes échecs,
à
mes
désirs. Pour pas que l'autre soit jalouse, peut-être.
Voilà, pour pas te mettre en insécurité, parce que tu restes mon amour, mon choix de vie. Et évidemment que c'est ne pas se dire, mais c'est aussi continuer à s'aimer. Parce que si on ne se dit pas, mais qu'on a la tête ailleurs, et qu'on ne se regarde plus, et qu'on est finalement coloc, on n'est plus dans l'histoire d'un couple, là c'est encore autre chose.
Et puis il n'y a pas une forme de compétition qui peut s'installer si l'une des deux personnes a beaucoup de relations et l'autre un peu moins.
Si elles ne se disent pas, c'est une compétition aveugle.
Mais néanmoins, où est-ce qu'elles vont lorsqu'elles parlent le soir, si elles répondent à son téléphone, il y a quand même des petits signes qui ne trompent pas.
On sent le falinier.
Jimmy l'enquêteur.
Ah bah, samedi soir, on reste à la maison avec moi. On va pas. C'est simple. Là.
On n'a pas un boulot là qui débarque.
Non.
Jimmy, Koh-Lanta, ça se regarde à deux. Hein.
Exactement. C'est ça.
Oui, je crois que de toute façon, effectivement, faire attention à ne pas exposer l'autre, c'est une chose, mais il y a évidemment tout ce que l'autre peut observer. Donc ça veut dire quand même, vous voyez bien que ça limite considérablement. À partir du moment où dans leur contrat, il est question de ne pas s'exposer aux aventures qu'elles auraient éventuellement en dehors, ça veut dire qu'elle s'en parle pas certes, mais qu'elle s'en parle pas et verbalement et symboliquement par tous ces petits signes effectivement qui montrent bien qu'on est ici ou on n'y est pas. Donc ça veut dire que ça limite quand même le champ des possibles.
Merci beaucoup Catherine pour toutes ces précisions. On revient demain, même heure, sur Europe 1. Tout de suite, place à Stéphane Bern et Mathieu Noël avec Historiquement Vôtre. Ils vont vous raconter l'histoire sans se la raconter comme tous les jours. Bonjour Mathieu, bonjour Stéphane.
Bonjour Mélanie. Vous faisiez quoi vous avant de faire ce métier?
Dites la vérité.
J'étais
moi,
à l'école, je crois.
Non, vous avez fait chanteuse aussi.
Un petit peu, oui.
Ah, voilà. Elle a chanté.
Ah oui, c'est ça. Mais eux aussi, ils ont fait un autre métier avant d'être connu. Léon Blum, avant d'être le socialiste des congés payés, il était écrivain. Louis Jouvet, il a fait des études de pharmacien.
Ah, ouais. Et vous, époque, Mélanie, vous auriez eu du mal à rentrer en boîte de nuit en Argentine, dans le Cordoba des années 50, puisque vous étiez jeune à cette époque-là.
Bien sûr.
Eh bien, le videur de la boîte de nuit qui vous aurait expulsé parce que vous portiez des baskets, il s'appelait Giorgio. Vous savez qui c'est ?
Non.
Le pape François.
Sacrée
reconversion.
Très intéressant. Et vous faisiez quoi, vous, Mathieu, avant tout ça ?
Moi, je ne rentrais pas en boîte de nuit aussi.
Oui, c'est ça. Allez, très bien. On va apprendre plein de choses dans cette émission. On va vous écouter, bien sûr, avec le docteur Jimmy Mohamed. Donc, vous n'hésitez pas non plus et restez bien avec nous.